cachez-toi, ne retourne jamais dans ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me jette la misère. Et voilà mon problème. Ah, écoutez ça.
Qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour exploiter la foule.
Des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez, on est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu aux fosses.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la vie. Dans l'île. Les 11 heures. On se trouve du midi. Mes parents sont rentrés en criant pour manger après travailler. Ouais, les deux hommes, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous écoutez le Canu Info du lundi 20 décembre et tout de suite on commence avec les titres.
À l'international, on parlera de la vengeance d'État contre le mouvement social en Espagne. Et au national, on parlera de Christiane Taubira et de quoi elle est le nom. Et puis au local, on fera un petit point sur le procès qui a eu lieu vendredi dernier contre des militants qui avaient réalisé une fresque hommage avec une inscription ACAB.
Et on n'aura pas un, pas une, mais deux interviews. Une première avec un camarade cheminot donc sur le mouvement à la SNCF qui dure depuis plusieurs semaines un peu partout en France. Et puis on enchaînera avec une autre interview, là aussi sur une lutte en cours à Arkema, à Pierre Bénit, c'est un mouvement national. Donc on en parlera également tout à l'heure avec les principaux intéressés.
Mais tout de suite, on commence avec les brèves. Jeudi 16 décembre, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et dans cette loi se trouvent plusieurs dispositions de la loi Sécurité globale, adoptée en avril 2021, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 mai 2021, suite à une forte mobilisation au niveau national contre la loi Sécurité globale. Il est notamment prévu donc de réautoriser les drones policiers qui avaient été interdits par la censure de l'article 47 de la loi Sécurité globale. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait décidé que ce dispositif à l'impact intrusif était ouvert trop largement et ne présentait pas de garanties suffisantes, notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Mais il avait donc validé le principe de l'usage des drones, ouvrant la voie à une nouvelle version de la mesure qui a donc été adoptée jeudi dernier. La loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure va même plus loin en autorisant les images captées par drone à être analysées par reconnaissance faciale. Et puis une brève un peu plus locale, puisqu'une grève de la faim est en cours au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry. Elle fait suite à la découverte de nombreuses personnes testées positives au Covid. Les prisonniers du bloc bleu, puisqu'il y a deux blocs dans le centre de rétention de Saint-Exupéry, n'ont plus accès au réfectoire et sont enfermés dans les chambres. Ils tentent de s'organiser et de manifester depuis l'intérieur et ils demandent à être libérés plutôt que d'être gardés injustement au sein d'un cluster. À part cet enfermement dans les chambres, aucune autre mesure sanitaire ni prise. A savoir aussi qu'au CRA de Ménilmonceau, la situation est similaire et les grévistes de la faim sont réprimés par la violence. Et dans le même temps, au CRA de Wassel, les prisonniers mènent aussi une grève de la faim, mais en réaction à la mort suspecte d'un de leurs co-détenus. C'est donc un rappel que ces prisons pour étrangers ne créent que de la souffrance et sont un non-sens. Et toujours près d'ici, 45 personnes occupent le gymnase Cusset à Villeurbanne depuis vendredi 17 décembre. À la veille des vacances de Noël, les familles de 29 enfants de l'école Ernest Renan à Villeurbanne dormaient toujours dehors. Les pouvoirs publics, mairie, métropole, État avaient été alertés à plusieurs reprises depuis mi-novembre, mais sans qu'une solution soit apportée. Le vendredi 17 décembre, le collectif Raymond sans toit a donc décidé de mettre à l'abri les familles dans le gymnase de Cusset. Le collectif et les occupants demandent à la métropole d'assumer dès maintenant ses compétences en matière de protection de l'enfance et des personnes vulnérables, à la préfecture d'assumer son obligation d'hébergement inconditionnel et à la mairie de Villeurbanne de mettre à l'abri les familles à l'hôtel le temps que l'État prenne le relais. Un rassemblement est appelé demain, mardi 21 décembre à 14h30, devant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, au Dairie du Nord à Villeurbanne, parce qu'une audience a été sollicitée auprès de Mme Christine Bonnet, directrice départementale, et M. Van Stevendel, maire de Villeurbanne.
Et puis on reste très localement, puisque notre préfet Pascal Maillot a annoncé jeudi dernier la création d'une brigade spécialisée de terrain, donc une BST, attribuée au quartier de la Guillotière et de Pardieu. On avait bien remarqué la présence de CRS et de policiers en permanence sur la place du pont ces dernières semaines, et il s'agit donc d'officialiser cette occupation policière en lui donnant une forme donc permanente. 31 personnes vont la composer, elle sera lancée en janvier et apparemment pleinement opérationnelle en février. Et ceci est rendu possible par l'attribution à la ville de Lyon de 300 nouveaux policiers accordés par le ministère de l'Intérieur.
Merci les Verts.
Merci Grégouze.
Ces brigades, donc ces BST, ne sont pas nouvelles. Pour rappel, c'est une de ces brigades qui est responsable de l'agression et du viol de Théo en 2017. Souvenez-vous, Théo avait été tabassé, filmé et avait reçu une matraque dans l'anus. Dans cette affaire, il a été aussi question d'introduction de fausses données dans les fichiers de police. Et puis souvenez-vous encore, les coupables avaient été bien couverts par leur direction et ceux-ci n'ont depuis été sanctionnés que d'un blâme. On peut donc s'attendre à ce que l'impunité policière à la guillotière ait de beaux jours devant elle, le but affiché étant bien sûr de lutter contre la délinquance et les incivilités, comme on dit, ce qui revient à vouloir répondre à la misère par la violence d'État. A savoir aussi que cette brigade sera accompagnée de membres de la police aux frontières, difficile donc de cacher l'intention de s'en prendre surtout aux étrangers. Et on finit sur les brèves locales avec l'annonce de la suspension de Guillaume Pretière, enseignant en droit public et droit constitutionnel à l'Université Lyon 2 et doyen de la faculté de droit, qui était aussi candidat à la présidence de l'université en 2021. Il est suspendu le temps d'une enquête pour abus sexuels sur une étudiante qui témoigne dans Rue 89. Que leur relation a donc démarré quand il avait 39 ans et elle 18 ans, dès sa première année en tant qu'étudiante à Lyon 2. Elle a été approchée par un compte Facebook appelé Faculté de droit, qui comptait 30 amis, presque que des filles. Puis l'enseignant a continué la relation avec elle par les réseaux sociaux classiques. Elle est tombée amoureuse dans une relation totale d'emprise. Une relation qui est devenue de plus en plus toxique, avec des relations sexuelles violentes, avec des pratiques non consenties. Le doyen lui a fait signer un document qu'il a appelé un contrat BDSM, rédigé par ses soins. La jeune femme étaye son récit dans le 89 avec de nombreux messages écrits et de nombreuses vidéos. Une mesure conservatoire de suspension a donc été prise à son encontre par l'université pour le bon déroulement de l'enquête administrative interne. Et l'université a déclaré qu'une saisie de la section disciplinaire est très probable. Le parquet de Lyon, quant à lui, ne s'est pour l'instant saisi d'aucune enquête. Comme dans le cadre des accusations d'abus sur des étudiants toujours à l'encontre de Jacques Gerstenkorn, professeur de cinéma à Lyon 2. Et on vous reparlera de cette fameuse politique pénale
du deux poids deux mesures du parquet de Lyon.
Et après les brèves, c'est... International. L'international, donc, avec un sujet en Espagne.
Oui, puisque il y a un peu plus d'un mois, une grève illimitée des métallurgistes du port de Cadix enflammait l'Andalousie. Cette lutte des métallurgistes, donc, a débuté véritablement le 16 novembre contre les réductions de salaire et les reculs de droits imposés par le patronat de la métallurgie andalouse à la suite d'un nouvel accord signé avec les syndicats sociaux-démocrates majoritaires. Alors, ce qu'a voulu mener comme offensive le patronat, c'est notamment le gel des salaires pour les années 2021 et 2022, la suppression des 13e et 14e mois, une augmentation jusqu'à 70% du nombre de contrats temporaires, donc des CDD, des contrats courts, et la création d'une nouvelle catégorie de travailleurs et de travailleuses précaires, bien en deçà du salaire fixé par la convention collective ou l'équivalent en Espagne, bien sûr. Et dans les petits papiers, hein, dans le prochain accord, il prévoit notamment l'augmentation de la journée de travail, du nombre d'heures, la suppression de la déclaration des heures supplémentaires et un salaire lié à la productivité. Là-bas, comme ailleurs, donc, le patronat se sent pousser des ailes, utilise la crise économique pour attaquer frontalement les droits des travailleurs et des travailleuses de la métallurgie andalouse, en l'occurrence, afin de maintenir sa courbe effrénée du taux de profit. Patronat qui a déjà attaqué l'Espagne et notamment l'Andalousie de plein fouet depuis le début de cette crise économique, à Cadix et alentour, le taux de chômage a explosé par exemple à 26%, donc plus d'une personne sur quatre est au chômage à Cadix et dans ses alentours, avec son corollaire, l'explosion de la précarité et de la pauvreté. C'est donc ce qu'ont refusé certains syndicats et collectifs, plus ou moins autonomes, de la métallurgie à Cadix, en lançant une grève illimitée le 16 novembre, qui a été massivement suivie sur 30 000 salariés de la métallurgie. Au plus fort des jours grévés, il y a eu 20 000 grévistes. Les manifs ont suivi, il y a eu des blocages de routes, des blocages de ponts, et bien sûr, des blocages très conséquents de la production. dès les premières manifestations et dès les premiers blocages, le gouvernement qui, on le rappelle, est issu d'une coalition dite de gauche, social-démocrate, menée par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, eh bien cette coalition a envoyé la Guardia Civile, bien sûr, qui a réprimé par la violence les grévistes à base de blindés militaires, de tirs en balles de caoutchouc, l'équivalent de nos LBD 40. La répression a été terrible, les blessés et les interpellés, nombreux et nombreuses. Mais les soutiens d'autres secteurs ont eux aussi été nombreux, notamment ceux du bassin minier des Asturies et en Galice. Et surtout la population locale s'est massivement déplacée, elle est sortie soutenir les métallurgistes dans la rue. Pendant 10 jours, le conflit a été extrêmement dur, à base de blocages, de barricades et d'affrontements avec la police. Alors en parallèle, bien sûr, les médias mainstream ont tout fait pour justifier la répression policière et militaire en criminalisant les grévistes et les manifestants et manifestantes, qualifiés de violents. Bien sûr, mais la véritable violence, comme toujours, elle est patronale, elle est policière et elle est judiciaire. Récemment, donc ce 16 décembre dernier, cette semaine, plusieurs militants ouvriers qui avaient activement participé à la grève du port de Cadix ont été interpellés et pour certains, incarcérés. C'est donc une véritable offensive et une véritable vengeance d'État orchestrée par ce gouvernement socialiste, une fois n'est pas coutume à l'échelle de l'Espagne comme à l'échelle européenne, contre le mouvement ouvrier qui a refusé de se laisser maltraiter et de se laisser dompter, et qui a été capable de maintenir pendant 10 jours un blocage de l'économie et un rapport de force qui a largement débordé l'État, les patrons, certaines directions syndicales. Alors on exprime ici notre totale solidarité avec tous ces grévistes qui ont mené une grève formidable et on soutient bien évidemment toutes celles et ceux qui subissent encore aujourd'hui la répression des socialistes espagnols.
Et puis comme nos invités vont nous parler de grève tout à l'heure, on écoute, on lâche rien.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat, tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout,
Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien.
Vous êtes toujours à l'écoute du Canu Info du lundi. Et puis, on va enchaîner.
National.
Au National, pour parler de Taubira, une nouvelle candidate peut-être.
Oui, et oui, ce vendredi, Christiane Taubira a annoncé envisager de se présenter à l'élection présidentielle. Donc après Anne Hidalgo, hein, c'est le grand retour de l'Union de la gauche et surtout la primaire populaire appelée par les mêmes fossoyeurs de cette gauche. Mais pourquoi Christiane Taubira bénéficie-t-elle d'une telle aura auprès des militants de gauche, voire d'extrême gauche? Et oui, car Taubira, bien que racisée et issue d'une colonie française, est un pur produit de la 5e République, ancienne garde des Sceaux de François Hollande de 2012 à 2016, politicienne professionnelle, elle bouffe sans vergogne à tous les râteliers. En 93, elle vote la confiance au gouvernement Balladur. L'année suivante, elle se présente sur la liste de Bernard Tapie aux européennes. En 2002, elle se présente cette fois-ci au présidentiel avec un programme à faire pâlir de jalousie les plus néolibéraux des socialistes. En 2004, une de ses anciennes attachées parlementaires obtient sa condamnation au prud'homme pour licenciement injustifié et la requalification de CDD en CDI. La victime évoquera d'ailleurs le harcèlement moral qu'elle a subi durant cette collaboration. Et ce n'est pas la seule, car lors de son passage au ministère de la Justice, elle épuisera de très nombreux collaborateurs, donc entre 2012 et 2016. En 2013, elle signe une circulaire sur la mise en place des tests osseux sur les mineurs isolés. Alors, elle est adulée hein, pour le mariage pour tous et la loi de 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage, mais on oublie bien souvent que son passage au ministère de la Justice a surtout été marqué par un centrisme à toute épreuve. Malgré les accusations de laxisme portées par la droite, son mandat n'a été marqué par aucun fléchissement statistique concernant le nombre de détenus, par exemple. Sa réforme pénale de 2014 ne contient que quelques avancées symboliques comme l'abrogation des peines planchers, mais en réalité elle signe aussi un recul important pour les aménagements de peine, puisque leur seuil a été ramené à 1 an au lieu de 2 et 6 mois pour les récidivistes au lieu donc de 1 an. C'est donc l'assurance de poursuivre les politiques répressives chères aux différents gouvernements de héros à Valls auxquels elle a participé. Elle ne quittera d'ailleurs pas le gouvernement lors de la fronde de 2014 qui verra la défection de Montebourg, Filippetti et Hamon qui ne sont pourtant pas de francs révolutionnaires. Bref, avec Taubira, on est bien dans la droite ligne Jadot, Hidalgo, Montebourg, le parti socialiste à la papa. Son opportunisme l'amène à surfer sur des combats qui semblent radicaux pour en réalité en amoindrir la portée révolutionnaire. Christiane Taubira défend les intérêts de sa classe comme elle l'a toujours fait. Elle ne peut être un espoir pour notre classe, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. À bas les liquidateurs de nos luttes et vive la commune. Allez, on enchaîne.
Local. Local. Local.
Local.
Avec un sujet au local pour revenir sur un procès.
Oui, on voulait quand même faire un petit compte-rendu du procès qui a eu lieu vendredi dernier au tribunal judiciaire de Lyon de 2 militants poursuivis pour dégradation de biens et outrage à agent pour une fresque réalisée sur un mur de la place Mazagran à Lyon 7e. C'était une fresque en hommage à Carlo Giuliani, militant altermondialiste italien, mort en 2001 lors d'un affrontement avec la police italienne en marge du G8, du contre-G8 à Gênes. La fresque portait l'inscription ACAB, ce qui avait provoqué l'hystérie de la police municipale lyonnaise à l'origine de l'interpellation des 2 militants donc, qui passaient en procès vendredi dernier. Comme la défense a expliqué que l'inscription ACAB relevait du message politique à l'encontre de l'institution policière et ne pouvait être considérée comme un outrage qui doit concerner un ou plusieurs agents identifiés, la procureure elle-même a fini par demander la relaxe concernant le délit d'outrage dans ses réquisitions. Pour la deuxième fois en quelques mois, la politique de répression des militants antifascistes par le parquet de Lyon éclate donc au grand jour. Car si le parquet, face au ridicule de l'accusation d'outrage, a dû abandonner les poursuites pour ce délit à l'audience, cette qualification lui avait permis de placer les deux militants sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquentation du 7e arrondissement de Lyon depuis juillet 2021. Chose qui n'aurait donc pas été possible sans les poursuites pour ce délit d'outrage abandonné par la procureure elle-même lors du procès. Reste donc le délit de dégradation pour lequel le parquet réclame 1 500 € d'amende à chacun des deux accusés. La défense a démontré que le mur de la place Mazagran est un mur d'expression artistique référencé sur des sites de street art qui appartient à une copropriété qui ne s'est jamais plainte de dégradation et non à la mairie de Lyon 7e, n'en déplaise à celle-ci qui s'évertue à venir nettoyer le moindre tag ou affiche politique qui décore la place Mazagran, alors que ce bout de mur n'appartient donc pas à la mairie de Lyon 7e. Au passage, la défense a noté que les 24 heures de garde à vue des prévenus n'avait servi qu'à 30 minutes d'audition de ces prévenus et pas à vérifier le cadastre pour se rendre compte que ce mur n'appartient pas à la mairie. Les poursuites ne tiennent donc une fois de plus pas la route et relèvent du harcèlement politique à l'encontre de militants orchestrés par le parquet de Lyon et ici aussi par la mairie et la police municipale. Le verdict est prévu pour le 28 janvier 2022.
Rendez-vous donc le 28 janvier 2022. Pour la suite, et puis là, on va enchaîner avec notre première invitée.
Donc, une première interview ce soir avec David Sudrail. Merci d'être venu.
Bonsoir, merci.
Donc, pour nous parler de ce qui se passe à la SNCF depuis plusieurs semaines, notamment cette dernière semaine. Alors, pour commencer, nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est de savoir d'où vient cette grève du 17 décembre, puisque ça fait en fait un certain nombre de semaines qu'on voit un peu partout en France des grèves locales qui sont lancées à la base sur un certain nombre de revendications qui sont toutes liées les unes les autres, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu donc des raisons de cette colère nationale ?
Bah, chez nous, la SNCF, en fait, ce qui est en train de se passer... C'est un peu les raisons de la colère, bon, elles sont multiples. Donc il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de gares, beaucoup de corps de métier où il y a vraiment un ras-le-bol qui fait suite en fait à des suppressions de postes. Donc ces suppressions de postes, c'est très simple à comprendre. Hein, qui dit suppression de postes dit des conditions de travail dégradées. Et forcément, dans tous les corps de métier, on a énormément de corps de métier chez nous. On a des électriciens, on a des mécaniciens, on a des gens qui vendent des billets de train. Donc c'est extrêmement varié, c'est un peu la richesse de ce service public-là. Donc forcément, à un moment donné, ben, il y a des grèves, il y a des ras-le-bol qui surgissent ça et là. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Le Roi Merlin, d'ailleurs, les salariés de Le Roi Merlin ont manifesté parce qu'eux aussi ont été concernés justement par ces problématiques-là avec... à juste titre, et on pourra en reparler avec cette fameuse inflation qui est en train d'arriver, tout augmente, mais sauf les salaires. Et ben nous, c'est pareil, donc les effectifs diminuent, nos salaires sont gelés depuis 7 ans, et puis, ben disons-le, il y a un ras-le-bol. Et forcément, à un moment donné, ce ras-le-bol s'exprime ça et là, un peu partout en France, dans les différents ateliers de la SNCF, mais pas que les ateliers, hein, les dépôts, là où les gens conduisent les trains, et où les contrôleurs font leur prise de service, entre autres.
Et du coup, on sait que la direction de la SNCF a fait un peu du chantage pour briser la grève en invoquant notamment l'ouverture à la concurrence. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors oui, la fameuse concurrence, c'est assez rigolo, c'est un peu une sorte de tarte à la crème. À chaque fois, on nous dit attention, la concurrence, la concurrence, la concurrence. Bon, il faut savoir que déjà, la SNCF organise déjà, filialise ses activités avec des choses comme... Ouigo, des trains comme Ouigo, etc. Très concrètement, ça veut dire quoi pour les salariés de la SNCF ? Des conditions de travail dégradées, vraiment extrêmement dégradées. L'usager, d'ailleurs, pour vous donner une idée, le mot usager est interdit chez nous. Maintenant, on ne dit plus usager, on doit dire client.
D'accord, bah oui, tout simplement.
Donc voilà, c'est la guerre totale, elle est économique. Notre direction, d'ailleurs, alors c'est pour ça que tout ça nous fait bien rigoler, en fait, hein, quand on nous parle de concurrence. Déjà, la concurrence, on la vit, notre direction est en train de nous filialiser, elle est en train de... On a une mosaïque contractuelle chez nous, donc il faut savoir que le statut n'existe plus, on a des CDI, on a une multitude d'intérimaires, on a... voilà, c'est vraiment la mosaïque contractuelle, et évidemment, c'est divisé pour mieux régner, et c'est très compliqué pour mener des luttes avec un salariat qui est atomisé. Cependant, quand même, on a quand même un bon reliquat de tradition de lutte. Et on essaie, justement, malgré ça, malgré cette barrière qu'essaie de nous imposer le patronat, pour nous, tout le monde doit être un travailleur du rail, quel que soit son statut, quelles que soient ses conditions de travail. Ça va de l'agent de nettoyage jusqu'au personnel de sécurité, hein, qui est présent dans les gares et qui, dans, bien souvent, remplit la fonction d'agent d'escale, d'ailleurs la direction on abuse, à souhait. Et donc pour nous, de toute manière, nous maintenons toujours cette optique-là. Nous sommes avant tout tous et toutes des travailleurs du rail. Et voilà, c'est ce qui veut dire qu'on essaie avant tout de maintenir cette tradition de lutte. C'est important. Je pense qu'on va en parler plus tard, un peu plus loin. On n'est pas mort. On est encore là et on a encore des choses à dire. Et je pense que l'année 2022 va être bouillonnante.
Alors bon, il y a d'un côté la direction de la SNCF qui fait du chantage évidemment pour briser la grève en justifiant de l'ouverture à la concurrence qu'elle a elle-même organisée avec le gouvernement, donc ça d'accord. Et de l'autre côté, il y a les directions syndicales qui ont décidé, une fois n'est pas coutume, d'organiser une grève ponctuelle alors que la colère a l'air quand même beaucoup plus de vouloir imposer quelque chose de plus conséquent. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Pourquoi juste le 17 et pas plus?
Alors c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre lorsqu'on n'est pas dans un secteur fortement syndicalisé comme le nôtre, où une des particularités qu'on a, on a une bureaucratie syndicale qui est là, qui met un point d'honneur à être l'unique interlocuteur avec la direction. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Alors vu de la base, moi je suis un militant et un cheminot de base à Sudrail, voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 17? On nous a dit, écoutez messieurs, bon c'est bien, mais pour l'instant, voilà, c'est peut-être les conditions ne sont pas tout à fait réunies, on va lever les préavis de grève et puis après on verra, on continuera au mois de janvier, voilà, plus beau, plus fort. Bon, faut pas être dupe, personne n'est dupe, hein, surtout après les Gilets jaunes, on connaît la musique, on nous l'a fait plein de fois, de toute manière, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on a des directions syndicales qui sont amoindries, pour pas dire affaiblies. Et puis elles ont peur, parce qu'on a eu durant ces journées-là, du 17, qui aurait pu donner le 17, ou 18, ou 19, et puis après...
Jusqu'à Noël,
voilà.
Voilà, ça qui fait peur.
Ça commençait à être un peu fort quand même. Et la problématique était là, en fait, c'est des bureaucrates, donc ils ont l'habitude de... Ils savent gérer ce genre de choses, et ils ont essayé de couper court le plus rapidement possible, parce que je pense qu'ils savaient que de toute manière, ils ne pouvaient pas... Ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà, donc ils ont décidé de couper court dès le début, en disant, dès le départ, on va leur couper, en gros, l'herbe sous le pied, et puis après, on invoquera le « c'est pas le moment, on verra plus tard, vous comprenez, etc., etc. » Bon, ceci étant dit, je leur souhaite bonne chance, hein, je sais pas, peut-être qu'ils avaient déjà réservé les forfaits de ski, bon, on verra. Je ne sais pas, on sait comment ça se passe, mais ce n'est que partie remise, parce que de toute manière, la colère est là. Alors, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard. Il y a énormément de sujets. Il y a vraiment plus que des lueurs d'espoir, hein, dans les combats qui ont été menés. Et de toute manière, oui, on est toujours là.
Et justement, ça montre quand même l'importance de l'implantation locale des grèves et d'avoir une base solide. Localement, il y a notamment une grosse victoire à Perrache. Tu peux nous en parler?
Alors, très grosse victoire à Perrache. Chez nous, on appelle ça les ADC dans le jargon. Alors, c'est l'acronyme qui veut dire agent de conduite. Nous, entre chez nous, on dit les mécanos. De manière plus gentiment, vulgairement, quand on se chambre entre nous, on appelle ça les pousse-manettes.
Voilà.
Vous avez un peu le, on va dire le langage, le lexique cheminot, quoi, voilà. Bon, ce qui est très intéressant, c'est un dépôt. Un dépôt chez nous, ben voilà, c'est là où les mécanos appartiennent administrativement, sont rattachés administrativement. Donc le dépôt de Perrache a fait un très très beau, a eu une très belle victoire parce qu'ils sont relativement jeunes. Ils ont une méfiance, on peut les comprendre, par rapport aux directions syndicales. Et là-dessus, on ne peut que les comprendre. Mais ils ont réussi à faire un mouvement qui a été initié déjà dès le 13, avec des revendications qui sont quand même assez incroyables, c'est-à-dire, on a des problèmes de roulement. Alors le roulement chez nous, c'est quoi ? Le roulement chez nous, c'est nos conditions de travail, nos prises de service, nos fins de service. Qu'est-ce qu'on fait durant ce temps-là ? Exemple, je me lève à 3h20 du matin, je vais tirer mon train entre guillemets, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais pas ça, etc. Donc, en gros, pour simplifier un peu à l'extrême. Et là-dessus, ils ont réussi à obtenir quand même, la direction a fléchi l'embauche de 62 d'une école, ce qu'on appelle de 62 mécanos pour 2022. C'est-à-dire que, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un peu nous, ce qui nous intéresse surtout dans notre optique, c'est travailler moins, mais travaillons tous. Voilà, parce que la problématique, elle est là, que ce soit l'hôpital public, que ce soit en privé. Oui, en effet, on est de moins en moins à travailler, mais par contre, ça devient l'enfer. Oui. Donc il va falloir à un moment donné qu'on partage les richesses et aussi le travail. C'est une très belle victoire. Et là, la direction, quand même, s'est pris une claque. Parce que 62 mécanos pour 2022, une école, oui, quand même. Là, il y a du combat. Il y a une belle victoire. Et ce qui est très intéressant, dans l'ensemble, pour la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes mécanos. Donc je pense que ça va être extrêmement formateur pour eux. Pour eux, ça va être une prise de conscience en se disant, ben voilà, on est capable de s'organiser nous-mêmes. On n'a pas besoin de Pierre Paujotte, d'experts syndicaux. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça permet de comprendre tout de suite qu'est-ce qu'un rapport de force et comment on le mène. Et ben, c'est un beau combat et moi je dis bravo.
Bah ouais, nous aussi on leur dit bravo, bon, sachant que c'est pas la première victoire localement là sur des grèves, mais que celle-là elle est quand même particulièrement belle. D'ailleurs, on continue à parler des luttes locales. À part Dieu, en ce moment, c'est pareil, il y a une grève qui commence à durer un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, par Dieu, ce qui est très intéressant, pareil, là on parlait des roulants. Alors chez nous, voilà, en gros, on a une séparation entre guillemets un peu symbolique et surtout aussi, on va dire en termes de rémunération, ça s'appelle les roulants, les mécanos, les contrôleurs, et ce qu'on appelle chez nous un peu les seigneurs du rail, se vendent comme ça. Bon, c'est pareil, c'est les petits mots que je vous donne un peu dans votre jargon, qui sont ce qu'on appelle les anciens aiguilleurs, les régulateurs, etc. C'est un peu l'aristocratie ouvrière chez nous parce que c'est des conditions, enfin, c'est un niveau de technicité qui est très particulier, des conditions de travail qui sont pas évidentes, une rémunération aussi qui est là, faut le reconnaître aussi, mais qui est pas, qui est tout, parfaitement justifiée, hein, parce que c'est des métiers qui sont pas évidents avec énormément de responsabilités. Là, ce qui est intéressant, on parle des speakers. Alors, un speaker, chez nous, c'est quoi en gare ? Alors, les gens vous diront, oui, c'est Simone, c'est la personne qui nous fait les annonces dans le micro quand on est en gare. Attention, c'est... Oui, c'est une partie du métier, il n'y a pas que ça, c'est un métier qui est très technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, à part Dieu, ce qui est très intéressant, il y a un mouvement qui est engagé, avec des taux de grévistes très intéressants. On a du 90%, là ils vont remettre le couvert et il va y avoir du 100%. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait ça se déroule en fait dans une, ça, c'est la continuité suite justement à la grève des retraites de 2019. Et merci aux auditeurs de Radio Canu, merci à Sav et Jordan, parce que quand même vous étiez présents et ça nous a permis de former, entre autres grâce à la solidarité, un très bel outil, mais qui est aussi vieux que le monde ouvrier, qui est la Caisse de solidarité des cheminots perdus. Et c'est, ça s'inscrit là-dedans, parce que c'est grâce à cet outil-là qui est toujours là, qui nous permet d'être indépendants, qui nous permet de dire en fait la grève doit appartenir aux grévistes, et surtout qui évite toutes les impasses des directions syndicales. Et ça, c'est inscrit maintenant dans le paysage syndical de Lyon-Pardieu, des cheminots Lyon-Pardieu, et ça c'est très intéressant parce que les gens m'ont dit, bah, écoutez, voilà, c'est très simple, écoute-moi collègue, ok, t'es aussi expert que n'importe qui, tu peux en effet t'organiser, on doit s'organiser nous-mêmes pour décider de nos conditions de travail et comment on doit mener une lutte. Et ça c'est fondamental, ça change beaucoup de choses. Ça, c'est très important. Mmh. Et je pense que ça m'aide à être souligné. Et puis, je voulais en parler parce que merci aussi aux auditeurs de Radio Canut qui partagent nos sensibilités. Merci à vous, c'est vous-même, parce que ça a quand même été des grands moments. On les a vécus. Ça a été un cap. On l'a franchi. C'est un outil qui est là. On l'utilise. Il n'est pas du tout en concurrence de l'outil syndical. Il est simplement un garantie d'indépendance, un aiguillon qui est nécessaire et qui permet de rappeler en disant « Attention messieurs, voilà, on est toujours à même de mener nos luttes. »
Et oui, je pense que c'est essentiel pour l'ensemble du mouvement social et du mouvement ouvrier que de tirer des leçons de ces modes d'organisation qui mènent bien souvent et bien plus efficacement à la victoire, je le pense très sincèrement.
Du coup, on arrive un peu à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être venu, parce que ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on se disait qu'il fallait que l'un ou l'une d'entre vous, les camarades cheminots, cheminotes, viennent nous parler de la lutte en cours. Donc c'est très bien, on en sait beaucoup plus. Et on suivra de près, comme d'habitude, les suites de ces grèves locales et nationales. Merci David d'être venu nous parler.
Eh bien, merci à vous, merci aux auditeurs aux auditrices de Radio Canut. Et puis surtout, je pense qu'il faut se dire que 2022, ça va être très intéressant.
Aura lieu, mais...
Il faut se préparer d'ores et déjà. Il faut forger des outils. Et en avant, je pense qu'on a de belles choses à dire et de belles luttes à mener.
Tout à fait. Super, ben merci. Et puis rendez-vous en 2022. Et là, en attendant notre prochain invité, on va écouter une chanson que vous reconnaîtrez certainement.
Sont des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, l'âme des troupes, conseil de guerre. Les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça me rend le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne. On fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça me rend le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça me relance. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être ça prend dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un fil pétale? Attends enfin la République de la justice et du travail. Oui, mais ça prend le temps. Manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Et
vous êtes de nouveau sur le Cartonnier Info du lundi 20 décembre et on enchaîne tout de suite avec une deuxième interview, cette fois des salariés d'Arkema.
Et oui, ils sont en grève depuis le 9 décembre. On accueille Nicolas de la CGT Arkema et Salah qui est travailleur et qui sont tous les deux en grève. Alors déjà, on ne connaît pas très bien Arkema. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre boîte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, effectivement, donc Arkema déjà c'est une multinationale, hein. Donc un fabricant de produits chimiques, donc qui se revendique premier chimiste de France, qui est présent dans le monde entier sur plusieurs sites. C'est environ 9 milliards de chiffres d'affaires attendus pour cette année et 1,7 milliard de bénéfices également attendus. Plus localement, donc à Pierre-Bénite, donc Pierre-Bénite c'est également un site chimique classé donc Céveso seuil haut, donc également un centre de recherche donc qui emploie environ 600 salariés, donc spécialisés dans la chimie du fluor et également donc un produit phare, donc le Kinar, qui est un plastique technique.
Okay. D'accord, donc bon, merci pour la présentation d'Arkema, nationalement et localement. Il y a une grève depuis donc, le 9 décembre. Quelles sont les raisons de la grève? Quelles sont vos revendications? Pourquoi est cette grève nationalement déjà?
Ouais, donc cette grève, elle est reconductible depuis le 9 décembre sur les 13 usines en France d'Arkema. Donc c'est parti par rapport au NAO, donc les négociations annuelles obligatoires, où tous les salariés s'attendaient à avoir des augmentations de salaire assez exceptionnelles pour cette année-là, parce que notre PDG s'est gargarisé sur tous les sites boursiers de faire énormément de bénéfices cette année. Et en plus, comme vous le savez tous, hein, il y a une inflation forte, de presque 3% certainement cette année. Et donc ces éléments-là, en fait, suite à des propositions qui ont paru vraiment, minables dans ces conditions-là, les salariés sont mis en grève reconductible.
Ouais, donc c'est principalement salarial, lié à l'inflation, un peu comme à la SNCF d'ailleurs, et comme dans pas mal d'autres secteurs, vous êtes sur cette ligne salariale. Principalement.
Je pense qu'en France, il y a d'autres. Je sais que cette semaine, Carrefour, Auchan, il y a eu Leroy Merlin, Decathlon, il y a aussi Arcelor, même si on n'en parle pas beaucoup. Et je pense que c'est une des préoccupations principales des travailleurs, entre l'essence, le gaz, l'électricité, l'alimentation. Et que quand on voit que tous les grands groupes, et dont notre boîte, hein, Arkema, fait des milliards de bénéfices, et que derrière, ils nous donnent, en fait là ils avaient annoncé 1,7% et 50 euros de talon minimum. voilà, on est, en fait, en gros, eux vont faire des milliards et nous, on va payer l'inflation. Donc c'est, voilà, c'est ça l'origine du mécontentement.
Ça ruisselle pas beaucoup, en effet. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu localement de la grève, comment ça se passe par chez vous?
Donc actuellement, donc, on a plusieurs camarades employés donc, qui sont spontanément installés donc, sur le site, donc en montant des abris de fortune, des bras zéro. Donc ils sont restés tout le week-end, y compris les nuits, donc sur place, à tenir on va dire le piquet de grève. Donc il y a également une caisse de quoi, plusieurs caisses de grève qui sont également mises en place. La première, bah, pour aider les salariés en grève à tenir le coup pour attraper un petit peu leur salaire perdu. Et une deuxième qui est là plus pour le côté technique du piquet de grève, donc pour leur amener un peu de nourriture pour tenir le coup. Donc spontanément, on a des salariés qui ne peuvent pas être grévistes, donc qui mettent quand même un petit peu d'argent dans la caisse de grève pour aider les camarades en grève, parce qu'ils savent bien que le combat, il n'est pas uniquement pour une certaine tranche de salariés, mais vraiment pour tous les salariés du site et de France. Il faut rajouter bien sûr que Arkema ne s'est pas bien sûr augmenté ses prix envers ses clients, donc déjà pour attraper l'inflation et aussi donc pour attraper le coût de l'énergie. Donc il faut pas. Donc Arkema gagne sur les deux tableaux. D'une part, il répercute donc les prix, les augmentations liées donc à l'inflation aux matériaux, donc au prix des matériaux, des matières premières et de l'énergie, donc sont répercutés aux clients. Et d'autre part, par contre, aux salariés, bah du coup, ils essaient de gratter un maximum sur la masse salariale et de ne pas répercuter. Donc on a un groupe du coup qui gagne sur les deux tableaux. On va revenir aussi sur les années précédentes. Donc on n'a pas eu de grève par rapport aux années Covid. Et effectivement, donc quand le groupe a annoncé des augmentations générales assez basses et pas d'augmentation individuelle pour les salariés, tout le monde s'est dit, bah effectivement, on est sur un groupe qui est à la limite, on accepte de ne pas prendre d'augmentation. Et c'est pour ça qu'il y avait une attente assez forte cette année. C'est ce qui a amené justement à avoir des sites historiques, quoi, des sites qui d'habitude ne sont pas spécialement en grève, rentrer clairement sur des grèves même en illimité. C'est du jamais vu.
Super.
Alors, avant de vous poser la question, puisque nous, on aime bien que les auditeurs et auditrices sachent comment vous venir en soutien, les perspectives nationales, là, puisque vous êtes parti, vous, en grève illimitée, est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont partis en grève illimitée, et comment vous voyez, vous envisagez les négociations à venir, puisqu'on imagine qu'il va y en avoir, où est-ce que ça en est, là, à peu près, actuellement et dans les jours à venir?
Est-ce qu'il y a des réponses de la direction?
Est-ce qu'il y a des réponses de la direction, déjà?
Eh bien, en fait, voilà. Donc là, c'est le 12e jour aujourd'hui, et là, ils nous ont laissé pourrir pendant 12 jours, et là, aujourd'hui, ils ont convoqué les délégués syndicaux centraux, et ont fait des propositions. Et donc demain, on va avoir une AG pour discuter de ces propositions, mais voilà, c'est en cours, tous les sites sont toujours en grève, et c'est notre force, en fait, d'avoir 13 usines en grève depuis le début. Et c'est notre force par rapport au patron, quoi, au PDG. Et voilà. Donc demain, on va discuter des propositions qui ont été faites et voir si on continue la grève.
Et du coup, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Est-ce qu'il y a une cagnotte? Est-ce qu'on peut venir sur le piquet de grève?
Il est où votre piquet de grève? Et parce que a priori, c'est là qu'il y a la caisse de grève. Alors, c'est pour l'alimenter, c'est où et comment on fait pour y venir?
Bah, il y a deux formes de soutien. Bah, c'est déjà de parler de notre grève, parce que voilà, d'essayer de la médiatiser, parce que allez. Voilà, je pense que dans la période actuelle, les médias nationaux, en tout cas, n'ont pas trop envie de faire passer cette info qu'il y a des travailleurs en lutte sur les salaires, déjà. Et la deuxième chose, oui, on a un piquet de grève. Alors, je ne sais pas encore combien de jours il va durer, mais en tout cas, demain, on fait encore un rassemblement à midi. Donc, tous ceux qui peuvent venir, ils seront accueillis, il y a une caisse de grève. Voilà, on fait un barbecue, il y a de quoi se restaurer. Donc voilà, c'est les deux soutiens, mais surtout à mon avis d'en parler en fait, c'est un des meilleurs soutiens, et en espérant que peut-être ça donne des idées aussi à d'autres travailleurs pour rentrer en lutte. Et parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'un mouvement général pour changer un petit peu les choses.
Et ce piquet de grève, juste, il est devant l'usine ou vous avez l'adresse comme ça tout le monde
Oui, donc il est devant l'entrée de l'usine, donc à Pierre Bénite, donc en face de la gare de Pierre Bénite, donc okay. C'est rue Henri Moissan. Donc de toute façon c'est facile à voir, on a allumé pas mal de brasero, de feu, bon ça se fait pas trop mais...
C'est normal. Et ben du coup on invite tous les auditeurs à venir demain midi alimenter piquet de grève, cette caisse de grève et puis profiter du barbecue aussi.
Et bien sûr, oui, ben, comme on l'a dit, donc, toutes les personnes sont les bienvenues et on se fera un plaisir de leur offrir de les restaurer, un sandwich, une boisson et tout ce qui va avec.
Et ben, super, on espère que vous tiendrez longtemps ou en tout cas que vous obtiendrez des vraies avancées sur les NAO. On vous remercie
d'être venu.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Et puis on tiendra au courant sur la prochaine émission des suites de cette grève.
On suit la lutte. Ouais. Et quant à nous, on passe peut-être
un tout petit agenda. Ouais.
Agenda.
Et oui, en plus du piquet de grève demain à midi à Pierre Bénite, il y a après un rassemblement, comme on l'a dit, à 14h30 devant la DDETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, d'Ille du Nord à Villeurbanne, en soutien aux personnes sans-abri qui occupent le gymnase QC depuis vendredi et qui réclament une vraie solution d'hébergement. On rappelle qu'il y a donc 29 enfants et leurs familles qui dormaient dehors jusqu'à vendredi dernier.
Et puis un autre petit rendez-vous, ce sera mercredi pour la permanence de santé de l'espace
de l'espace communal de la Guillotière.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de 16h à 20h. Et donc pour rappel, ça a lieu les 2e et 4e mercredis du mois. C'est pour recevoir une écoute, une orientation vers d'autres structures, des conseils, des explications de documents, tout ça en rapport avec la santé. Et là c'est à l'annexe et l'adresse de l'annexe c'est
27 rue Salomon Rénac.
Quel beau cœur. Et comme c'est les fêtes, il n'y a pas beaucoup plus d'événements dans l'agenda, mais comme ça a été annoncé par toutes les personnes interviewées ce soir, on se retrouve en 2022 pour
la lutte finale.
Des luttes intenses.
On va avoir à faire, beaucoup à faire. Soyons prêts.
Et quant à nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, je crois.
Non, pas la semaine prochaine.
Mais début janvier,
voilà, on se retrouve après les fêtes.
En force et en forme.
Bonne soirée.
Ciao.
Nice girls.